France Inter.
C'est pour des émissions comme ça que c'est impossible d'arrêter Blockbuster. Tu vois, moi, ça fait 15-20 ans que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Je suis paysan, j'ai des enfants en bas âge. Bref, j'ai d'autres choses à faire. Et quand j'entends une émission comme celle que tu viens de faire, eh ben, tu vois, je me sens encore un peu inclus dans la communauté des gamers. Je me sens encore un peu gamer. Tu participes au lien social des ex-gamers, Frédéric. Tu peux pas nous laisser, s'il te plaît.
Salut Frédéric et toute l'équipe. C'est Frédéric de Montréal. Merci énormément pour toutes ces années. Et merci énormément sur le sujet du jour qui était Mobius, Jean Giraud, qui est certainement le plus grand dessinateur de bande dessinée moderne. Voilà, merci énormément et ce fut un énorme plaisir de vous écouter encore une fois. Et longue vie à Blockbuster, au-delà des étoiles.
Oui, salut Fred, Estelle des Côtes d'Armor. Bah, merci beaucoup pour l'émission d'hier sur Ally McBeal, une série vraiment innovante et déjantée, un peu comme moi. Donc, j'avais découvert alors que j'étais partie vivre en Nouvelle-Zélande en 97. Donc, elle m'a aussi permis d'apprendre l'anglais. Donc, c'est une bonne manière de l'apprendre. Et ouais, bah, dès que j'ai entendu la bande-annonce sur France Inter, bah, la musique de Barry White est tout de suite infiltrée dans ma tête et mon corps s'est mis à bouger étrangement. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Salut.
Bonjour, je m'appelle Lof, j'ai 6 ans et je trouve que les schtroumpfs, c'est schtroumpfement bien.
Moi, j'aime pas les schtroumpfs.
Arrête, schtroumpf grognon, t'embêtes tout le monde.
To be or not to be, not to be.
Il ne faut pas sous-estimer la portée philosophique des Schtroumpfs. Vous vous souvenez de l'album Les Schtroumpfs Olympiques ? Ou le Schtroumpf chétif, qui, je vous l'accorde, n'est pas le genre de nom qui te fait terminer en couverture du magazine Challenge. Le Schtroumpf chétif, donc, a un gros coup de mou avant une course pour laquelle il ne se sent pas du tout à la hauteur. Et le grand Schtroumpf, dans sa grande sagesse, tel le manager de Lance Armstrong avant un Tour de France, décide de lui filer un coup de main à l'aide de produits dopants. Alors quand on vit dans une maison faite en champignons, on est un peu moins regardant sur la consommation de stupéfiants. En l'occurrence, de la gelée de groseille qu'il applique sur le bout du nez du Schtroumpf chétif. Évidemment, le Schtroumpf Paul Mirabel prend la confiance, court comme le Schtroumpf Usain Bolt et gagne la course. Comme c'est un Schtroumpf en sérieux besoin de thérapie, il culpabilise, entame un syndrome de l'imposteur, et c'est là que le grand Schtroumpf lui révèle, attention spoiler, que c'était de la confiture de groseille toute bête, sans aucun additif ni pesticide, le genre de produit qu'on vend à 45 euros le pot au Naturalia à côté de chez vous. Le Schtroumpf chétif avait, vous l'avez deviné, juste besoin de prendre confiance en lui. Et c'est génial comme morale à lire quand t'es enfant, mais au fond, ça pose une question plus profonde. Si le Schtroumpf chétif a toujours été capable de performances sportives, bah c'est qu'il n'est pas chétif. C'est le caractère qu'il s'est choisi au commencement, mais ça signifie pas du tout qu'il est condamné à l'assumer tout au long de sa vie. Le baptême social d'un Schtroumpf n'a rien à voir avec du déterminisme social. Dès lors, le Schtroumpf à lunettes peut aussi être costaud, la Schtroumpfette peut être bricoleuse, et le Schtroumpf paresseux peut s'essayer à l'agriculture et devenir le Schtroumpf paysan. Le nom des Schtroumpfs dit juste d'où ils partent, pas où ils termineront. Et ça, ça devrait être la norme pour tout le monde, bien au-delà du village des Schtroumpfs.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Le langage lui-même est venu avant la création du personnage. C'est un jour où, avec André Franquin qui dessine Gaston et qui a dessiné Spirou, je lui ai demandé à table de me passer le et ne trouvant pas le mot, j'ai dit, passe-moi le schtroumpf. Il m'a dit, tiens, voilà le schtroumpf. Il dit, merci de me l'avoir schtroumpfé. Quand je n'en aurai plus besoin, je te le schtroumpferai. Et on s'est amusé à parler schtroumpf, tout à fait sans avoir l'idée de l'employer un jour, disons commercialement.
Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Viens, dépêche-toi.
Ouais, on va tous l'avoir dans la tête. En 1958, le dessinateur belge Peyo Pierre Culifort, de son vrai nom, crée les Schtroumpfs à l'intérieur des pages de Johan et Pierre Louit, une autre de ses bandes dessinées. Les Schtroumpfs sont des petits êtres bleus qui vivent schtroumpfement heureux dans un village champignon au milieu de la forêt avant que cette dernière ne soit détruite par la construction d'un autoroute A69. Chaque Schtroumpf a sa propre personnalité et son propre rôle dans cette ZAD de fantaisie. Mais ils ont néanmoins un ennemi commun. le terrible sorcier Gargamel, un vieux célibataire avec son chat. Depuis 67 ans, les Schtroumpfs vivent leur vie et leurs aventures dans tellement de pays et sur tant de médiums, dessins animés, jeux vidéo, films, figurines et bien sûr, bandes dessinées. Bref, les bonhommes bleus les plus connus de la planète, c'est pas les Navi d'Avatar, oh que non, mais bien les Schtroumpfs de Peyo. Et pour vous le prouver, je suis entouré par Véronique Culifort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fille de Peyo et petite sœur des Schtroumpfs puisque vous êtes née 3 semaines après eux.
Tout à fait, vous avez raison.
Vous protégez et gérez l'œuvre de votre père et vous présidez la société IMPS qui assure la diffusion et l'utilisation des Schtroumpfs.
Oui, dans le monde entier.
Avec nous également Jérôme Lachasse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de bande dessinée.
Tout à fait.
Avec nous de retour et on est ravis, Jessica Cohn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée.
C'est ça.
Monsieur Peyo, quel personnage dessinez-vous ?
Ce sont les Schtroumpfs.
Et ce sont des personnages gays ?
Je l'espère. De toute façon, ce sont des personnages qui viennent du fantastique. Ce sont des petits nains à la peau bleue et qui ont un langage surtout bien particulier. Ils parlent le schtroumpf, c'est-à-dire qu'ils remplacent certains mots par schtroumpf et certains verbes par schtroumpfé.
Et à quel public vous adressez-vous ?
J'espère que c'est au public de 6 à 78 ans parce que nous gagnons toujours de toute façon 2 ans sur la concurrence.
Vous venez d'entendre Peyo, le papa des Schtroumpfs, dans une archive INA de 1970. Jessica Cohn, que représentent les Schtroumpfs dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge ?
Ah, c'est une vaste question. Alors, les Schtroumpfs sont publiés dans Spirou. C'est important à savoir parce que dans les années 50-60, il y a 2 magazines pour la jeunesse qui se font vraiment concurrence en Belgique, c'est Tintin et Spirou. Et les 2 représentent 2 styles de dessin différents. Et les Schtroumpfs, c'est vraiment l'école de Spirou, l'école de Marcinelle, qui est aussi l'école de Franquin. Donc, ils vont représenter, en fait, tout le côté plutôt comique de la bande dessinée qui s'oppose au côté réaliste et donc un côté peut-être plus bon enfant. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé peut-être une trace aussi durable.
Véronique Culifort, on a appris au tout début de cette émission comment est né le nom de Schtroumpf, hein, parce que voilà, c'est cette conversation avec André Franquin qui est rentrée dans la légende. Mais comment a-t-il eu l'idée du look des Schtroumpfs ?
Mais mon père était un passionné d'animation et dans ses premiers métiers, son premier métier était projectionniste dans un cinéma juste après-guerre. Donc il a projeté de multiples fois des films de Walt Disney et je pense que les petits nains de Blanche-Neige l'ont un petit peu influencé ou donné l'idée de faire une histoire de Jean et Pirlouit avec des petits gnomes.
D'accord. Et comment il s'est mis au dessin ?
Il a toujours dessiné. C'est ce que j'ai toujours entendu dire, même dans les marges de ses cahiers à l'école, il dessinait. Donc c'était une envie très très forte chez lui, depuis toujours.
Et j'ai lu qu'initialement, Peyo avait une préférence pour Johan et Pirlouit. Et est-ce qu'il a été surpris du succès phénoménal des Schtroumpfs ? Parce que initialement, c'était des personnages secondaires de Johan et Pirlouit.
Oui, il était le premier surpris du succès des Schtroumpfs parce que son intention était de faire ces petits personnages pour une seule histoire de Jean et Pirlouit. Mais le public a tellement demandé à mon père de continuer ses histoires avec les Schtroumpfs qu'il s'est essayé à faire un album complet. Et puis voilà, le succès est arrivé tout seul parce que le public était ravi. Et puis lui, il aimait bien dessiner ses petits Schtroumpfs aussi qui se trouvent quand même quelque part toujours un peu dans le Moyen-Âge.
Oui. Jérôme Lachasse, comment s'est passée votre découverte des Schtroumpfs ? Racontez-nous, confiez-vous.
C'est la première BD que j'ai lue. Mon père, quand j'avais 2-3 ans, m'a offert La Flûte à 6 Schtroumpfs. Donc je suis rentré dans l'univers des Schtroumpfs via Johan et Pirlouit. Et ça a été tout de suite un énorme choc avec ce langage en fait, qui était très rigolo et qui permettait d'inventer plein de choses. Et moi, après, j'ai le deuxième livre des Schtroumpfs que j'ai lu, c'était le Schtroumpfissime. C'est pas un livre à lire quand on a 3-4 ans, mais moi, c'est le livre que lisait mon père. Et c'est un livre avec beaucoup de politique dedans et qui est très étonnant et un peu violent même, qui est très différent du reste de la série. Mais c'est comme ça que j'ai découvert les Schtroumpfs via le côté, la dimension un peu sérieuse politique de l'œuvre.
Et on l'a dit, les Schtroumpfs sont apparus dans Johan et Pirlouit, qui est une œuvre qu'on peut qualifier d'œuvre de fantaisie déjà.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent à des œuvres de fantaisie. Il va y avoir des fantômes, des nains, des dragons. Il y a tout cet univers médiéval, fantastique, et même quand là ils sont en train de l'adapter en série, j'étais au Festival d'Annecy, on a vu une bande-annonce et on voit qu'ils le tirent vraiment vers un univers à la Game of Thrones avec des grandes créatures, des monstres inquiétants. Et donc c'est vraiment dans l'ADN de Joanne Éperluite, le fantastique, la fantasy.
Et Jessica, est-ce que Joanne Éperluite et les Schtroumpfs sont un petit peu notre réponse au Seigneur des Anneaux anglais?
Pourquoi pas, ouais. En fait, c'est un peu la rencontre, de la fantasy américaine et du comique franco-belge. C'est-à-dire, d'un côté, des décors qu'on pourrait imaginer un peu grandioses et puis qui sont contrebalancés par du loufoque et de l'humour. Et ça, c'est vraiment assez typique de l'humour franco-belge de l'après-Seconde Guerre mondiale, de jamais vraiment tout à fait se prendre au sérieux.
Véronique, si Peyo, le papa des Schtroumpfs, si on le connaît pour ça, il y a aussi eu de nombreux babysitters, de nombreuses figures tutélaires qui ont aidé à la création des Schtroumpfs. Il y a évidemment André Franquin, qui a quand même eu un rôle à jouer dans l'entrée de Peyo dans le magazine. Mais il y a aussi eu Yvan Delaporte, il y a aussi eu votre maman, Nine, à l'origine de la couleur des Schtroumpfs.
J'ai toujours mis les albums de mon père en couleur depuis le départ, et donc elle a défini le bleu par élimination. Elle ne voulait pas que ce soit, enfin mon père et elle ne voulaient pas que ce soit une couleur humaine. Il ne pouvait pas non plus être rouge parce que trop agressif. Jaune, ça n'allait pas non plus, c'était pas très très joyeux. Vert et brun, trop près de la nature, des arbres et de l'herbe, comme les Schtroumpfs sont tout petits. Et donc, par élimination, elle est tombée sur le bleu. Elle s'est dit, tiens, voilà une couleur qui va trancher. Donc, je dis toujours, merci maman.
Et si je peux rajouter quelque chose là-dessus, pour encore plus féliciter votre maman. C'est très important, le rôle des femmes dans la bande dessinée de cette époque. En fait, comme elle ne signe pas, on ne sait pas. Mais c'est pas la seule femme à avoir... travailler pour son mari, fait la colorisation. Et je suis vraiment contente que ces noms ressortent aujourd'hui et qu'ils arrêtent d'être oubliés.
Merci beaucoup pour elle. C'est ce qu'on fait aussi sur les albums, d'ailleurs. On met son nom maintenant, Couleur de Nine.
Oui, parce qu'elle a beaucoup travaillé, de fait.
Elle y a beaucoup travaillé, elle y a passé des nuits entières. Mais elle aimait ça aussi.
Et d'ailleurs, est-ce qu'ils avaient leur schtroumpf favori, celui qu'ils essayaient de placer un petit peu dans chaque album parce qu'il avait leur faveur?
Je sais que mon père aimait bien le schtroumpf avec son paquet cadeau parce qu'il faisait toujours des blagues aux autres et que mon père aimait bien de faire des blagues. Maman, je ne sais pas si elle avait un schtroumpf favori. Et puis moi, c'était la schtroumpfette, évidemment.
Et c'est d'ailleurs toujours la schtroumpfette.
Et c'est toujours la schtroumpfette.
Jérôme? Votre schtroumpf à vous?
Le schtroumpfissime. Le schtroumpfissime, parce que je sais que j'ai relu l'album tout à l'heure et je me suis rappelé de quelque chose en lisant parler de la couleur. Et les couleurs dans l'album sont très belles. Et vous parlez du jaune, ça rendait ça un peu triste. Mais c'est vrai que moi, je sais que l'image que je garde, et j'ai toujours aimé ce schtroumpf habillé en jaune. Je trouve ça très étonnant. On les voit toujours en bleu.
Bleu et jaune, je trouve ça très...
Ouais, et bleu et jaune, c'est graphiquement, aussi. C'était aussi oui. Beau. Et donc c'est vrai que je garde moi cette image-là... graphique du schtroumpfissime.
Jessica?
Mais par contre, un schtroumpf de la couleur jaune, ça n'aurait pas été très joli.
C'est vrai.
Jessica?
Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le schtroumpf timide. Je sais pas, je m'identifiais un peu et puis je le trouvais mouvant. Ouais.
Véronique, dans combien de pays ont été traduits les schtroumpfs?
Dans 55 langues, je crois, en tout. Et le nombre de pays, c'est un peu proportionnel, donc à peu près le même nombre de pays. Parce qu'il y a il y a des pays où il y a plusieurs langues aussi. En Belgique, déjà, il y a deux langues. En Espagne, il y a deux langues aussi. En Inde, il y en a plus que deux. Donc là, c'est énorme. Mm-hmm. Donc, les traductions sont multiples, mais grosso modo, on va dire 55 langues différentes de par le monde.
Et quel pays est le plus, de manière surprenante, fan des Schtroumpfs?
Mais ça dépend des moments. Quand il y a des moments comme maintenant, avec la sortie d'un long métrage, c'est tous les pays dans lesquels le film sera diffusé, que l'engouement pour les Schtroumpfs remonte. Mais de manière générale, en Europe, ils fonctionnent toujours très bien. L'Italie est un pays de grands, ils sont très fans des Schtroumpfs. La Chine est un pays qui émerge pour l'instant, enfin, ces dernières années, d'une manière assez forte. Et aux États-Unis, tous les jeunes adultes aujourd'hui ont grandi avec les Schtroumpfs. Donc, il y a quand même une belle ferveur là-bas aussi.
Alors évidemment, les Schtroumpfs, c'est des musiques. Hein, évidemment, on pense à la Schtroumpf, la. Vous allez avoir dans la tête pendant je ne sais pas combien de temps. Mais il y a aussi le générique des Schtroumpfs chanté par Dorothée. Évidemment. On l'écoute.
Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux.
Nous sommes les petits Schtroumpfs.
Vous avez dit les Schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Champignons, tout à fait décorés. C'est clair car la nuit va tomber. Partout il y a de la musique, la fête est fantastique.
La chonf la 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 la, la 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 chonf la la.
Mais dans l'ombre, leur ennemi mortel, l'horrible sorcier Gargamel.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Couleur bleue, haut comme trois pommes, un grand cœur, j'ai trouvé, leur grand cœur causera leur perte, je vais leur envoyer une schtroumpfette. La schtroumpfette sera leur malédiction. Avec cette boule magique d'argile bleue, je vais créer la première schtroumpfette de l'histoire. Commençons par trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, une grosse couche de parti pris. Un doigt de tissu de mensonge. De la poudre de langue de vipère. Et, pour terminer, une pierre très dure qui sera le cœur. Ça a marché, ça a marché. Victoire, j'ai créé une schtroumpfette.
Rajouter une toute petite pincée de rhum et on avait ma grand-mère. Un extrait de la série animée des Schtroumpfs, d'abord diffusée aux États-Unis en 1981, puis l'année suivante en France dans Récréa 2. Alors là, on a entendu la création par Gargamel de la Schtroumpfette. Mais Véronique, quel regard portez-vous sur les débats autour de l'existence de la Schtroumpfette et ce fameux syndrome de la Schtroumpfette dont on entend souvent parler quand on évoque la surreprésentation des hommes par rapport aux femmes?
Écoutez, moi j'ai un regard assez spécial et assez lointain parce que je suis beaucoup plus dans la BD. Donc moi, la création de la Schtroumpfette, je l'ai vécue de l'intérieur, je vais dire. Et bah, tout ce qu'on peut en dire, que mon père était misogyne ou des choses comme ça, c'est faux et archi-faux. Maintenant, chacun peut interpréter la présence d'une seule fille dans un village de garçons. C'est vrai que c'est amusant de l'analyser, mais moi, je ne suis pas dans l'analyse, je suis dans le contexte global de ces histoires que mon père avait envie de raconter. Donc, comme il a eu envie de raconter l'histoire d'un bébé aussi, bébé et d'ailleurs, en fait, c'est la même chose.
D'ailleurs, j'ai toujours été un petit peu étranger à ce débat pour une seule et simple raison, c'est qu'en fait, je me suis toujours demandé si les Schtroumpfs étaient vraiment des garçons. Parce que vu que leur existence précède l'invention de la Schtroumpfette, c'est qu'ils ont bien un moyen, un « eux » d'exister et de se reproduire. Donc en fait, j'ai jamais vu vraiment le problème. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est juste un Schtroumpf qui est habillé différemment. Mais pour eux, ils ne sont pas genrés comme nous. C'est quelque chose, c'est une sorte d'anthropomorphisme humain.
Il y a des débats.
Oui, ça peut être ça. Oui, il n'a jamais voulu insister sur sexe ou pas sexe. Donc c'était pas du tout le but de ces histoires, mais voilà. Et qu'est-ce que les Schtroumpfs font sous le chapeau, c'est aussi une question. Hein.
Jessica.
Bah justement, il y a des débats sans fin pour savoir si les Schtroumpfs ont un sexe, comment ils se reproduisent, avec en plus l'histoire du bébé Schtroumpf qui arrive au village. On n'a pas trop de réponses à cette question. Après, pour cette question d'une unique Schtroumpfette au milieu du village des Schtroumpfs, bah, il faut rappeler que, en fait, je pense pas que moi la question ce soit de savoir si Peyo était misogyne ou pas misogyne. Il dessine à un moment donné et son œuvre elle est située et c'est une période où il n'y a pas de représentation féminine dans la bande dessinée, très peu, toujours caricaturale. Et donc il fait comme tout le monde. Et moi, je serais vraiment assez d'accord avec Véronique de dire il a eu envie de raconter cette histoire, donc il l'a racontée comme ça, comme il a eu envie de raconter d'autres histoires, sans forcément un recul ou une intention politique, en l'occurrence. Pour le Schtroumpfissime, c'est différent, par exemple, mais en l'occurrence, je pense qu'il n'y avait pas d'intention derrière spécialement. Il a repris son époque.
J'ai vu dans une interview où il disait qu'il... Pour justifier la Schtroumpfette et la recette, il disait « j'ai fait comme Brel dans Les Biches ». Parce que dans Les Biches aussi, il décrit comme ça les femmes et il y a la même... ça peut être interprété avec la même violence. Et donc, voilà, c'est un peu un petit complément.
Oui, et puis en plus, c'est quelque chose qui est très symptomatique de l'époque, de reprendre des œuvres qui remontent à 50, 60 ans des fois, et de leur faire dire des choses qui n'étaient pas là initialement. Moi, j'ai eu des débats enflammés sur le Wakanda de Black Panther avec des afro-descendants. Faut pas oublier à quelle époque ça a été écrit, et surtout que les auteurs, en général, ils étaient loin d'imaginer qu'on en parlerait dans une émission comme on le fait ce soir.
Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, d'autres autrices ne pouvaient pas proposer autre chose, parce qu'il y a aussi d'autres modèles qui existent. Donc, on aurait pu imaginer quelque chose de différent, même dans les années 60. Mais ça n'a rien d'étonnant que ce genre de dessin soit dessiné à cette époque-là.
Et qu'est-ce qui, je vous pose la question à tous les trois, qu'est-ce qui explique, selon vous, la longévité phénoménale des Schtroumpfs et leur succès, qui ne s'est jamais démenti ? Jessica.
Je pense que c'est très drôle. Et qu'ils sont extrêmement attachants. En fait, ce petit village de Schtroumpf, un peu protégé de notre humanité, elle est vraiment attachante. On a envie de rester avec eux et d'évoluer dans leur univers, certes parfois un peu mis à mal, mais quand même toujours très positif et où les histoires se terminent bien. Et puis je crois que le fait que ça se passe dans la nature, ça a aussi un impact positif pour les lecteurs. Ça change de beaucoup d'histoires.
Véronique ?
Oui, moi je trouve aussi que le village des Schtroumpfs, c'est un modèle de notre humanité, mais un modèle qu'on a envie de suivre parce que finalement il leur arrive plein d'aventures qui nous concernent aussi, comme le Schtroumpfissime, comme Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. C'est un peu politique, mais c'était très, très à l'ordre du jour. Mais en même temps, ça finit bien. Et voilà, il y a une leçon, il y a une morale. Il y a de la gentillesse, donc les parents sont rassurés quand les enfants regardent ou lisent les Schtroumpfs, parce que il y a rien de méchant et il y a une bonne instruction dedans, on va dire, entre guillemets.
Mm-hmm. Jérôme ?
Il y a tout ce qui vient d'être dit, ce côté, c'est le héros, c'est la communauté, donc en fait tout le monde peut s'identifier, mais je pense aussi à le graphisme de Peyo, ce graphisme tout en rondeur que en fait tous les enfants peuvent recopier. Moi, je sais qu'enfant je le dessinais, il est très facile à prendre en main et à On aime bien quand...
Qui semble très facile, mais quand on est enfant,
on aime bien reproduire ce qu'on lit. Et si vous regardez toutes les grandes œuvres qui sont les plus connues dans le monde, que ce soit Snoopy ou Tintin ou... et les Schtroumpfs, ce sont des graphismes qui sont faciles à prendre en main. Et quand on est enfant, on peut les dessiner facilement. Et c'est très rigolo de dessiner ce trait tout en souplesse. Et donc je pense qu'une clé du succès tient à ce graphisme qui est absolument parfait.
Véronique, au dernier recensement, il y a combien de Schtroumpfs en circulation ?
Si vous parlez des figurines en tant que telles, il y en a à peu près il y a 700 modèles différents, 700 ou 800 modèles différents de Schtroumpfs. Maintenant, si vous parlez des licences qu'on accorde à différents corps de métier, il y en a environ 740 tous les ans.
D'accord, moi j'étais juste sur le nombre de Schtroumpfs dans le village.
Ah, de nombre de Schtroumpfs dans le village, alors on s'arrête à 99.
D'accord,
c'est l'histoire qui veut ça.
D'accord.
Il y en a d'autres qui sont rajoutés. Bon, c'est vrai qu'en plus, il y a eu la Schtroumpfette, en plus, il y a le bébé Schtroumpf, donc on peut en rajouter, mais l'histoire veut qu'il soit 99.
Très bien. Et quel âge ont les Schtroumpfs en moyenne ? Parce que je sais que le grand Schtroumpf a 549 ans, si je ne m'abuse.
Aux chanterelles.
Aux chanterelles. Ah oui, il
les
a pas.
Aux
ah oui, il les a pas encore. Oui.
Et les Schtroumpfs, ils ont 100 ans.
D'accord. Et ils font pas du tout leur âge. Comme quoi, vivent dans la nature.
Pas une ride.
La salle, pareil, ça maintient. Et il y a évidemment Gargamel et Azrael. Gargamel qui cherche les Schtroumpfs parce qu'il en a besoin, selon lui, pour obtenir la pierre philosophale. Et Azrael qui les poursuit parce qu'il veut les manger. Comment est arrivée la création de ce personnage ? Parce qu'on a toujours besoin d'un antagoniste quand on crée des héros. Comment s'est créé Gargamel ?
Mais Gargamel, d'abord, il faut toujours un méchant dans des histoires, parce que les enfants adorent ça. Et puis, il faut justement qu'ils aient peur, qu'ils se battent, qu'ils arrivent à vaincre la méchanceté ou la bêtise, qui est le cas de Gargamel et Azrael. Et mon père travaillait quand même pas mal avec, justement, Yvan Delporte, qui était aux éditions Dupuis à l'époque, qui était à la rédaction du journal de Spirou. Et je crois qu'il s'est fait aider par Yvan pour trouver ce fameux Gargamel, parce que lui, il adorait les personnages imaginaires du Moyen-Âge, et il y avait une Gargamella, je crois, dans les histoires de cette époque-là, et donc voilà, le nom Gargamel lui est venu comme ça, et l'apparence que Gargamel a, ben, c'est l'apparence d'un sorcier dans le monde du Moyen-Âge toujours, et un sorcier, ça a toujours un chat.
Et quel chat ! Et est-ce que, au fil du temps, on peut toujours classer Gargamel parmi les méchants ? Parce qu'il y a quand même de nombreux albums et de nombreuses histoires où on l'a vu tourner Kazakh, finalement aider un petit peu les Schtroumpfs quand il se rend compte qu'il y a plus dangereux que lui. Il y a quelque chose, peut-être que c'est moi qui suis amateur de causes perdues, mais je trouve qu'il y a quelque chose de touchant chez Gargamel.
Oui, parce qu'il faut bien retenir qu'il est méchant, mais il n'est pas que méchant. Il est bête et méchant. Et c'est ça qui fait sa force et qui fait rire le public. C'est que même sa méchanceté termine toujours en bêtise, donc ça fait rire tout le monde.
On est ensemble.
C'est pas facile de faire des histoires où on rappelle cet aspect de bêtise et de méchanceté mélangée.
De bêtise et de méchanceté mélangée. Oui, ben en même temps, les gens écoutent Blockbuster depuis un certain temps, donc ils ont une bonne appréciation de des méchants. On est ensemble pour parler du village des Schtroumpfs, un village où tout le monde rit, et tout le monde rit, mais c'est aussi le titre de David Byrne, Everybody Loves.
1, 2, 1, 2, 3, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders
gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know and every single face, every change of heart and every saving grace, every song we sing and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Frédéric Sigrist sur France Inter.
Je sais qu'il commence à se faire tard, mais le schtroumpf qui a dû faire schtroumpf toujours.
C'est vrai, schtroumpf bricoleur, mais je suis quand même inquiet. Il y a un orage terrible, il vaut mieux schtroumpfer à sa recherche.
Oh, ah, on s'approche. Schtroumpf, ah, si je me schtroumpf pas vite d'ici, je vais attraper de beaux schtroumpfs.
Schtroumpfez-vous. Presque arrivé au sommet de la falaise.
Je suis fatigué encore. J'ai froid. Je crois que le schtroumpf caduflaire est au bout du schtroumpf. Mais qu'est-ce que je trouverais pour être avec les schtroumpfs? Il y a quelqu'un?
Schtroumpf caduflaire, c'est toi?
Oh, grand schtroumpf! Oh, le schtroumpf soit loué!
Un second extrait de la première série animée Les Schtroumpfs avec Gérard Hernandez qui double le grand schtroumpf depuis 43 ans maintenant. Véronique, demander à Anna Barbera de réaliser l'adaptation en dessin animé dans les années 70, ça a été une idée de génie.
C'était tout à fait une idée de génie à une époque extraordinaire parce qu'il n'y avait rien, enfin, il n'y a jamais eu un personnage européen qui est allé aux États-Unis et dont ils ont voulu faire un dessin animé. Donc c'était gigantesque. C'était d'abord, on était très très fiers d'une part, et puis le succès a été immédiat. Donc voilà, les compagnies américaines à l'époque étaient quand même au top de l'animation à ce moment-là, et on était très honorés qu'ils veuillent s'occuper des Schtroumpfs. C'était une véritable aventure.
Et il paraît qu'en termes d'audience, ça concurrençait et même des fois ça dépassait certains épisodes de Dallas.
Oui, c'est vrai qu'ils étaient un peu en concurrence pour un public différent.
Ah, JR, il n'a pas réussi à battre les Schtroumpfs.
Non, sûrement pas.
Et l'idée de diversifier sa création sous forme de produits dérivés, elle venait aussi de Peyo, parce que c'est assez rare en fait qu'un dessinateur ait aussi vite pris conscience du pouvoir que sa création pouvait générer.
Oui, puis mon père a travaillé aussi, avant d'être dessinateur, il travaillait dans la publicité, donc c'était également un domaine qu'il aimait beaucoup, parce que à petite échelle, mais très petite échelle, il faisait déjà des actions publicitaires, Benko pour le chocolat avec les Schtroumpfs, pour Kellogg's aussi, il faisait des publicités avec les Schtroumpfs, chocolat Quata, mais c'était vraiment plop plop des choses très très séquentielles, tandis que là, avec la sortie du dessin animé, mais ce sont en fait les fabricants qui sont venus directement demander une licence pour pouvoir apposer du Schtroumpf sur leurs produits, et il s'avère que ça se marie bien. Donc mon père aimant ça, et voilà, il était quand même assez commercial dans l'âme aussi, mais il trouvait que c'était très sympa de voir ces personnages sur d'autres produits que de la plat papier édition.
Et revenons tout de même à la bande dessinée. Jessica, quel est votre album favori de Peyo ? On va à l'univers étendu.
J'ai découvert Peyo par Benoît Brisefer quand j'étais petite, et c'était le Cirque Bodoni, le premier que j'ai lu et celui pour lequel je garde encore un grand attachement. C'était la découverte de tout un univers, et puis il y avait quelque chose chez ce petit garçon auquel je m'étais attachée, je pense. Et sinon, je rajouterais quand même une petite note supplémentaire pour Poussy, qui est un peu oublié. Je savais pas du tout que c'était le même auteur avant de travailler sur la bande dessinée des années plus tard. Mais le Schtroumpf, c'est rigolo à cause du langage. Et Poussy aussi, parce qu'il n'y a pas de langage. Et quand on est enfant, ça c'est extraordinaire, parce qu'on peut lire la bande dessinée. On peut la lire entièrement, du début à la fin, sans l'aide d'un adulte. C'est une grande réussite d'avoir fait ça.
Jérôme ?
Moi, ça va être John et Pierre Luit. Tous les premiers albums que j'ai beaucoup lus, mon père les avait lus à l'époque, il avait les éditions originales, et mon oncle aussi, donc je les lisais chez eux. Et c'est vrai que c'était ce qui me fascinait, moi, c'était, on parlait tout à l'heure de l'identité sexuelle des personnages, mais j'avais le même trouble devant Joanne et Pierre-Louis, c'est-à-dire j'étais longtemps persuadé que Joanne était une femme. Parce qu'il y avait un graphisme très androgyne, et bon, évidemment, c'était un garçon, mais je sais que ça m'avait beaucoup marqué. Et je les ai relus récemment, parce qu'il y a eu de grandes éditions noir et blanc chez Dupuis Nifle, qui ont fait à la taille des planches originales. Et c'est des bouquins fascinants à relire, parce qu'on découvre en fait la pureté du dessin de Peyo. Alors il n'y a pas la couleur, mais on voit vraiment le travail sur les décors, le travail sur les expressions des personnages qui est proche du dessin animé.
Oui, et puis moi j'avais une fascination sur sa manière de dessiner les pierres et les différents niveaux, les dalles qui se juxtaposaient les unes aux autres, ou les briques dans un château. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment organique là-dedans.
Et parce qu'après, une fois qu'il va faire les Schtroumpfs, le dessin va un peu changer, évidemment. Puis il y a aussi beaucoup de dessinateurs qui travaillent dessus, mais... c'est vrai que dans les premiers albums de Joanne et Pierre-Luc, il y a quelque chose dans le dessin qui est assez beau, assez pur, et on retrouve le même talent qu'il y avait chez Franquin, chez Uderzo, et qui est peut-être un peu moins célébré, mais il faut relire ces albums parce qu'ils sont assez magnifiques à aller regarder.
Véronique, l'univers des Schtroumpfs aujourd'hui va bien au-delà de la bande dessinée. Il y a les disques, évidemment, les dessins animés, des jeux vidéo, des figurines, des films, mais il y a aussi eu un parc d'attractions, parce que je suis lorrain. Véronique, donc je
ne suis... Ah, voilà.
Bah voilà, donc forcément, moi, Big Bang Schtroumpf, l'aventure Big Bang Schtroumpf, j'ai connu, et ensuite c'est devenu Walibi Schtroumpf. Donc, bien avant le parc Astérix, j'aimerais que vous me parliez de ce parc Schtroumpf.
Oui, c'était une expérience, une première expérience d'un parc. Là également, bon, pour mon père, c'était une consécration, donc il n'a pas hésité longtemps à accorder les droits pour faire un parc Schtroumpf qui se situait à Metz. Enfin, Schtroumpf, il est toujours là-bas, mais il s'appelait Schtroumpf.
Alors on dit Metz.
Donc c'était vraiment une nouvelle aventure pour lui de pouvoir voir en grand ces tout petits personnages. C'est quelque chose qui est également magique.
Oui, alors vous auriez pu le mettre auprès de Nancy, mais vous avez choisi de le mettre à Metz. Ça, voilà,
il n'a rien choisi du tout.
tout ne peut pas être parfait. Hein. Mais néanmoins, voilà. le produit dérivé le plus connu, parce qu'en préparant cette émission, j'y réfléchissais, et c'est peut-être celui qui est tellement évident, c'est les bonbons, les Schtroumpfs Haribo, que je consomme régulièrement à chaque départ en vacances. Voilà, c'est...
Oui, vous n'êtes pas le seul.
Ah, mais c'est un truc, vraiment, je pense que vous accompagnez les départs en vacances, et on peut acheter des Schtroumpfs pendant le voyage. Et j'imagine qu'Haribo vous envoie une carte de vœux à chaque nouvel an, non ? Parce que ça représente un marché énorme.
Il y a un bonbon Haribo mangé toutes les secondes.
Toutes les secondes ?
Oui. Mais bon, peut-être pas que Schtroumpf. Hein, maintenant,
pas par la même personne, rassurez-moi.
Non, pas par la même personne. Mais donc, pour vous dire que oui, je reçois une carte de Noël tous les ans.
Oui.
Mais c'est une chouette licence, donc c'est sympa, c'est bon, d'abord. Et, bon, il ne faut pas en abuser, mais ça, c'est comme pour tout. Hein, faut être un peu... voilà, c'est le rôle des parents aussi de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'abus. Mais c'est une terrible licence, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, ils en ont fait des mini, où il y a moins de sucre. Où il y a... Donc vraiment, ils essayent de garder leur clientèle aussi, et moi j'en mange tout le temps. C'est vrai qu'un petit schtroumpf comme ça.
Et bon, alors là, hein. J'ai une question, mais est-ce que du coup ils vous envoient des exemplaires gratuits? Vous avez ouais. Avis des schtroumpfs chez vous?
Pas avis, mais tant que le contrat existe et qu'il y a des nouveaux. S'ils font des nouveaux personnages, par exemple, il y a eu des bonbons avec la schtroumpfette dedans aussi, ou le grand schtroumpf. Donc, on reçoit une dizaine de modèles d'auteurs, mais c'est 10 petits, c'est 10 sacs, hein. Faut pas exagérer.
Ah oui, ça va, oui.
Non,
ah oui.
Non, on reçoit pas des camions.
C'est dommage. Des pièces remplies de schtroumpfs partout, et là, je me dis, oh là là, le cauchemar.
Ne me faites pas rêver.
Et alors, je sais que les schtroumpfs ont un incroyable succès aux États-Unis, au point où de nombreux Américains ignorent même que c'est une création belge.
Oui, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis. Dans le monde entier, tout le monde, enfin, les gens se prennent les schtroumpfs comme étant un personnage de leur pays. D'abord, parce qu'ils changent de nom à chaque frontière. Donc, c'est un nom du pays, c'est un Poufi en Italie, c'est un Pitufos en Espagne, un Smurf aux États-Unis. Donc, pour eux, c'est normal qu'ils viennent de leur pays, parce qu'il y a des forêts partout. Il y a des fonds de jardin partout. Donc, c'est tellement sympa, c'est tellement... ça fait rêver de pouvoir croire que les schtroumpfs, dans leurs champignons, ben, ce sont des champignons à côté de l'arbre, dans le fond de mon jardin, ou dans la forêt. C'est beau.
Donc là où il y a une forêt, il y a vocation à avoir des schtroumpfs.
Oui.
Et ben voici un plaidoyer pour la lutte contre la déforestation.
Ah ben voilà.
On schtroumpfe ensemble dans Blockbuster pour parler des schtroumpfs de Peyo, mais tout de suite on écoute Des Printemps par Gatien et Barbagallo.
Cendre.
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Dans le village des Schtroumpfs, chaque jour est une fête. Chaque Schtroumpf a son rôle. Comme Schtroumpf grognon.
Moi, j'aime pas avoir un rôle.
Schtroumpf influenceur.
Salut la commu, je suis en stream du village des Schtroumpfs.
Et moi, la plus cool des Schtroumpfs. Allez, les garçons, faites comme moi.
Au village des Schtroumpfs, tout va toujours pour le mieux.
Non, c'est quoi ça?
Écoutez-moi tous, vous courez un terrible danger. Notre village n'est plus en sécurité. Allez dans le monde.
Oh non, le grand Schtroumpf s'est fait enlever.
Gargamel et Razamel ont capturé le grand Schtroumpf.
Petit frère, tu m'as tellement manqué. Tu n'as pas reçu mes emails?
Non, je t'ai bloqué.
Mais pourquoi?
Parce que j'en avais marre de recevoir des photos de ton chat.
Allons-y, le Schtroumpf. On va montrer au monde réel de quel bois on se Schtroumpf.
Je me suis schtroumpfé dessus.
Un extrait du nouveau film des Schtroumpfs en salle le 16 juillet 2025 avec les voix françaises de Jérôme Commandeur, Sophia Issaïdi, François Damiens, Philippe Catherine et toujours Gérard Hernandez. Alors, les Schtroumpfs et le cinéma, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années déjà et notamment le premier qui a été un énorme succès aux États-Unis, si je ne m'abuse. Jessica.
Oui, c'est un film, c'est le film de Kelly Asbury, c'est ça?
Oui.
Oui, c'est un film qui a un gros succès. C'est aussi un film en 3D. Je pense que ça explique une partie de son succès. Après, c'est aussi c'est des films avec d'énormes budgets. Donc, je pense que ça explique quand même en partie le fait qu'il y ait une telle réception. C'est que tout est fait pour qu'il y ait une telle réception dans les salles. Mais j'imagine qu'il amène au cinéma des parents qui ont vu le dessin animé sur la NBC quand ils étaient jeunes. Parce que...
Et puis avec, ouais. En plus, avec des talents de stars aux États-Unis, du moins dans la version originale, où je sais que Katy Perry doublait la Schtroumpfette à l'époque. Là, c'est Rihanna. Il faut être une pop star désormais pour...
Ouais. Les moyens sont mis pour que les Schtroumpfs continuent à être un succès international.
Et étonnamment, Véronique, le premier film en animation 3D qui est sorti ne se passait pas en France, ni en Belgique.
Non, voilà, ils ont commencé à voyager un petit peu à travers le monde. Ben, c'est pour rassembler les gens de notre planète aussi. Hein. Je crois qu'on aime toujours bien de voir les Schtroumpfs à l'extérieur de leur monde du village. Mais ils commencent dans le village, le film, et ils finissent dans le village. Ça, c'était une condition pour les faire sortir un petit peu.
Mm-hmm. Et une question, parce que les Schtroumpfs en bande dessinée sont issus de la bande dessinée Johann Pirluit. Est-ce que vous avez déjà songé à faire un film, un dessin animé de luxe qui se passe à l'époque moyenâgeuse dans lequel il y a Johann et Pirluit, et même à faire apparaître Johann et Pirluit, c'est-à-dire les ramener à leur époque telle qu'ils étaient conçus dans la bande dessinée?
Mais on a des projets pour les prochaines années, donc pour 2027, d'une série avec Jean et Pirluit. Mais j'aimerais vous rappeler quand même qu'il y a eu un long métrage de la flûte à six Schtroumpfs qui a été créé par les studios Bellevision en Belgique et qui est sorti dans les années, je crois que c'était en 76, me semble-t-il.
Ok, donc là, on va avoir un retour en série animée de Johann et Pirluit et les Schtroumpfs.
De Johann et Pirluit, et puis apparaîtra un petit Schtroumpf. Parce que c'est surtout une histoire de Johann et Pirluit.
D'accord. Mais ça, c'est une grande nouvelle.
Ah, c'est bien, hein.
Mais ça, c'est très bien. Jérôme.
Il y avait une bande-annonce à Annecy où il montrait un peu l'ambiance visuelle et le ton graphique, et ça ressemblait un peu au film Spider-Verse.
Oui.
Avec des mélanges 3D, 2D. Et ça donnait assez envie. Comme c'est assez long à faire. C'est possible que ce qu'il y a dans la bande-annonce va un peu changer par rapport au résultat, mais c'est assez enthousiasmant de voir qu'aussi Johann et Pirluit, qui est une œuvre assez géniale, soit remise en avant. Et juste par rapport, tu posais tout à l'heure la question de comment ça se fait que ça marche autant. T'as la réponse avec le film, en fait. Le fait qu'il y ait des films... comment expliquer le succès? Mais quand on voit qu'il y a des films à 200 millions ou 100 millions de dollars qui sont produits, ça montre bien que c'est une marque globale et que c'est un succès global. Et le fait qu'il y ait Rihanna, qui est quand même sans doute une des chanteuses les plus populaires au monde, prête sa voix à la Schtroumpfette, c'est pas anodin. Et Rihanna, elle a pas fait de chansons depuis des années. Là, elle chante dans le film. Donc, c'est aussi la preuve que les Schtroumpfs, c'est quand même un événement culturel important, et c'est vraiment un indicateur, ce film, de la place qu'a les Schtroumpfs et du succès qu'a les Schtroumpfs, peut-être même plus que Quintin-Tintin, ou, par exemple.
Et Véronique, vous êtes combien pour gérer tout ce patrimoine ?
On est quand même une solide équipe de 40 personnes à peu près.
40 ? Mais c'est peu.
Oui, c'est très peu. C'est très très peu. Mais voilà, on a. Ce sont des grandes pointures. Ce sont des gens qui sont motivés, qui schtroumpfent. Ils ont envie de schtroumpfer toute la journée. Non, c'est voilà. On est bien organisé. Mais on n'est qu'une quarantaine, effectivement.
Et alors, vous avez laissé le volet scénario à votre frère ?
Alors, mon frère scénarise, mais ils sont plusieurs scénaristes à faire les albums, parce qu'on a quand même pas mal de titres qui sortent régulièrement en BD. Et mon frère a hérité de mon père ce côté artistique, ce côté humour. Donc, comme nos albums, nos BD sont toujours à double lecture, enfin là, je parle des Schtroumpfs, qui est une double lecture, une lecture pour l'enfant et une lecture pour l'adulte, avec un clin d'œil. Il a gardé cet esprit-là et c'est l'input qu'il apporte au livre est vraiment, vraiment l'input Peyo.
Et est-ce que vous avez déjà envisagé de laisser les coudées franches à d'autres dessinateurs ou scénaristes pour des réadaptations ? Ça fait un petit peu à la star de ce qu'on a vu avec Spirou ou Lucky Luke dernièrement.
Mais on en a fait un avec Thébault. On a fait ce livre-là il y a deux ans maintenant, je crois. Oui. J'étais tétanisée. J'étais vraiment contre, archi contre. On a dû se battre, pas physiquement bien entendu. Et finalement, j'ai dit voilà, bon, on va le faire quand même. Et je suis vraiment ravie du résultat. J'ai été bluffée parce que je ne l'ai pas encore rencontré, parce que j'étais vraiment trop inquiète. Mais j'étais bluffée par son travail, par son humour. Et bon, le dessin, il faut se mettre dans la tête que c'est vraiment
c'est
un autre dessin,
c'est pas dessin,
du Peyo. C'est là que j'avais le plus de mal. Mais c'était vraiment une réussite, quoi. C'est vraiment, vraiment, j'ai pas d'autre mot que bluffé. Il a fait un travail admirable.
Ah bah, bravo à lui, et ça me fait plaisir de vous entendre dire ça, parce que vraiment, je trouve que pour justement faire une transition, une passation vers de nouveaux publics, vers de nouveaux lecteurs, ce genre de tentative, c'est souvent couronné de succès, parce que c'est aussi ce qu'on a envie de voir. Parce qu'il faut relever quand même le défi d'entretenir une franchise qui date de 1958 pour le public de 2025, qui a quand même de nouveaux héros. Il y a une BD franco-belge qui fonctionne quand même très bien, une BD des jeunesses qui fonctionnent très bien. Mais il y a aussi les concurrents venus d'autres pays, le manga, etc. Donc, comment vous faites pour relever ce défi de rester pertinent pour tous ces nouveaux lecteurs ?
Ben, comme toujours, on a une petite équipe, mais avec des bons cerveaux, des bonnes têtes. Et on a quand même pas mal de personnes qui se tiennent au courant de ce qui se fait, de ce qui pourrait se faire. On fait des brainstorms très régulièrement avec l'éditeur aussi, pour voir un petit peu comment sortir du Schtroumpf classique tout en restant nous-mêmes. Et là, c'est un peu le rôle que je préfère, je dirais, dans mon rôle de gardienne du temple, c'est de savoir jusqu'où on peut aller tout en conservant l'âme, l'œuvre de mon père, sans la dénigrer, mais en continuant à évoluer, parce que c'est ça le succès des Schtroumpfs aussi, c'est qu'ils peuvent se permettre d'évoluer constamment.
Et je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, mais votre album favori ?
Moi, j'ai toujours bien aimé Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. C'est vraiment une histoire belge.
Et il y a Jessica qui opine du chef.
Oui, c'est une histoire belge. En même temps, ça résonne aussi, j'en parlais tout à l'heure, avec une histoire française. C'est la zizanie de Astérix Obélix et la zizanie. Donc du coup,
voilà.
J'ai eu beaucoup d'affection pour cet album aussi.
Merci beaucoup Véronique Kilifort, merci Jérôme Lachasse, merci. Jessica Kuhn. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée comme toujours par Étienne Bertin, préparée par Lisiane Larvanik qui je trouve drôlement dur, hein, et Benjamin Ducy qui est schtroumpfement agréable avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest et aujourd'hui à la technique Gaspard Guy Schtroumpf-Bourget. Vous pouvez comme toujours nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou venir converser joyeusement avec moi sur Instagram, et on se retrouve demain pour parler du réalisateur sur qui repose une bonne partie de l'avenir des adaptations de super-héros, l'atypique James Gunn.
Je suis toujours si émue par les départs.
Au revoir, gros Schtroumpf.
Moi, j'aime pas les au revoir.